Merci d'écouter RFI, 7h en temps universel, 9h à Paris.
RFI Matin.
Marion Cazeneuve, au Canada, des législatives anticipées marquées par la guerre commerciale avec le voisin américain.
L'actuel Premier ministre est donné favori de ce scrutin. Il fera la différence face à Donald Trump, selon les électeurs rencontrés par notre envoyé spécial dans le pays. Donald Trump, encore lui, fêtera bientôt ses 100 jours au pouvoir, 3 mois seulement, mais déjà de nombreux bouleversements, notamment dans la politique migratoire. On est à la frontière mexicaine pour le dossier du jour. La Corée du Nord reconnaît officiellement avoir envoyé des soldats pour combattre aux côtés de l'armée russe face à l'Ukraine. Et puis en football, après sa défaite en Ligue des Champions en mars, Liverpool se console avec un 20e titre en Première Ligue.
Les Canadiens se rendent aux urnes dans quelques heures.
Pour les législatives anticipées, où le Premier ministre Marc Carney devrait rester au pouvoir, il a gagné des points en restant ferme face aux voisins américains et à sa guerre commerciale, quand son adversaire conservateur est lui surnommé le Trump du Nord. Et c'est cette guerre commerciale qui sera dans la tête de tous les électeurs lorsqu'ils glisseront leur bulletin dans l'urne, Marine de la Moissonnière.
Hausse des droits de douane, menace d'annexion, les attaques de Donald Trump ont éclipsé tous les autres sujets. Pour Raoul, commercial de 47 ans, Marc Carney est l'homme de la situation.
Marc Carney fera la différence et je suis fort convaincu que le président actuel américain va fléchir. Le prochain premier ministre canadien, croyez-moi madame, va le faire fléchir.
Colby, américano-canadienne de 48 ans, votera elle aussi pour Marc Carney, un peu à contre-cœur.
Je le trouve intelligent. Il a une grande expérience à l'international et il comprend comment le monde fonctionne. Même si honnêtement, je le trouve un peu trop conservateur. Mais c'est la meilleure option car Pierre Poilievre partage les mêmes idées que Trump. C'est un mini Donald Trump.
Ce parallèle avec le président américain dérange aussi Ryan, employé de 57 ans. Mais après 10 ans de gouvernement libéral, il veut du changement.
Je ne suis pas encore sûr de mon choix. C'est vraiment une décision difficile. J'ai l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra. Pierre Poilievre est trop proche de Donald Trump et en même temps, vu ce qu'ont fait les libéraux ces dernières années, je crois que je vais voter pour les conservateurs.
Le nouveau Premier ministre aura vite l'occasion de se mesurer à Donald Trump. Les négociations en vue d'un nouvel accord commercial doivent commencer début mai. Marine de la Moissonnière, Ottawa, RFI.
Donald Trump au pouvoir depuis bientôt 100 jours.
100 jours de décrets signés à tour de bras, de déclarations fracassantes. Un début de mandat marqué donc par cette guerre commerciale et une politique anti-immigration agressive et dont l'impact se fait ressentir à la frontière mexicaine où l'on retrouve notre envoyé spécial Nathanaël Vitran pour notre dossier du jour. Nathanaël, vous êtes à El Paso, au Texas. Qu'est-ce qui a changé en 3 mois?
Oui, El Paso, c'est la ville frontière par excellence. Juste à côté, sur l'autre rive du Rio Grande, il y a Ciudad Juárez au Mexique. Les deux villes sont reliées par un pont que traversent chaque jour des milliers de personnes en voiture, à pied. Nous avons fait la traversée et ce qui a changé, eh bien, ce sont ces soldats qui surveillent la frontière de part et d'autre. Donald Trump a réquisitionné la garde nationale, donc l'armée qui a désormais l'autorité pour contrôler, pour appréhender les migrants illégaux. Pour l'anecdote, dans l'avion qui m'a amené ici à El Paso, le pilote a fait applaudir un régiment de soldats qui allait prendre son poste à la frontière. Le Mexique aussi a mobilisé ses troupes dans l'espoir d'apaiser Donald Trump. Et ça fonctionne. Il y avait jusqu'à 1500 arrestations par jour de migrants illégaux en 2024. Il y en a désormais à peine une cinquantaine.
Et est-ce que c'est seulement dû à cette militarisation de la frontière ?
Alors non, les chiffres sont un peu biaisés puisque les statistiques de la police aux frontières prenaient aussi en compte les migrants qui venaient déposer une demande d'asile aux États-Unis. Joe Biden avait déjà éliminé la possibilité offerte à ces migrants de faire leur demande depuis le sol américain. Et depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, eh bien, ils ne peuvent plus déposer de demande d'asile tout court dans un centre d'accueil pour migrants à Juárez. Nous avons d'ailleurs rencontré une famille vénézuélienne qui avait rendez-vous avec les services de l'immigration. La date du rendez-vous était fixée au 21 janvier. Ironie du sort, c'est le jour où Donald Trump a pris ses fonctions. Et cette famille, comme beaucoup d'autres, a donc été contrainte de faire une croix sur son rêve américain.
Sur le plan économique, Nathanaël, qu'est-ce qui a changé ?
Alors tout ne s'est pas arrêté d'un coup, hein. Beaucoup de Mexicains ont un permis temporaire qui leur permet de venir travailler aux États-Unis. Et puis on a aussi rencontré un jeune Mexicain qui nous a expliqué que lui traversait toutes les semaines avec un visa touriste pour venir travailler illégalement à El Paso sans jamais être inquiété. côté mexicain, c'est plus compliqué. Toute l'économie locale est chamboulée. À Ciudad Juárez, il y a des zones industrielles entières pleines de ce qu'on appelle ici des maquiladoras, des usines d'assemblage de produits destinés au marché américain. Une partie reste épargnée par les droits de douane. Les autres sont frappées de plein fouet. Certaines ont fermé, d'autres ont réduit la voilure. Mais ici, on veut croire que beaucoup d'usines installées en Chine, en Asie, choisiront de venir s'installer ici au Mexique pour profiter d'un accès qui reste malgré tout privilégié au marché américain.
Nathanaël Vitran, envoyé spécial de RFI à la frontière mexicaine pour le dossier du journal de 9h. 100 jours au pouvoir mercredi donc pour Donald Trump, soit 99 de trop pour régler la guerre en Ukraine. Donald Trump avait assuré qu'il y mettrait fin dès sa première journée à la Maison-Blanche. Il continue en tout cas de mettre la pression pour un accord de paix. La semaine qui débute sera cruciale selon lui. Il pense même que son homologue ukrainien va accepter de renoncer à la Crimée annexée par la Russie en 2014.
Le président américain, lui, ne renonce pas au Groenland.
Il a averti à plusieurs reprises qu'il voulait prendre le contrôle de ce territoire autonome danois. Le Groenland ne sera jamais une propriété à vendre, lui a répondu hier le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen, élu aux élections de mars. Et il s'apprête à recevoir tout à l'heure le roi du Danemark, Justine Fontaine, et notre envoyé spécial à Nuuk, la capitale du Groenland.
La visite du roi ici suscite soit de l'indifférence, soit de la sympathie, comme chez ce Groenlandais de 19 ans, Aka, rencontré dans le centre commercial de Nuuk.
Il fait de bonnes choses, il est le bienvenu ici.
Autre génération, même son de cloche quelques pas plus loin, du côté de Runeux, 53 ans.
La plupart des gens ici sont attachés à lui et je fais partie de ceux qui apprécient la relation que nous avons avec le Danemark.
Une relation que le nouveau gouvernement ici et que Copenhague cherchent à renforcer face aux menaces d'annexion formulées par Donald Trump. Pour l'historienne Uya Miwakengel, la pression exercée par le président américain explique que le roi vienne si vite après les élections groenlandaises.
Indirectement, oui, ça ne fait aucun doute. Il est évident que le Danemark fait tout pour renforcer la relation et faire en sorte que le gouvernement groenlandais se sente considéré.
La première ministre danoise était d'ailleurs venue à Nuuk juste après la nomination du nouveau chef de gouvernement le mois dernier. D'habitude, les dirigeants groenlandais font d'abord le voyage à Copenhague. Justine Fontaine, Nuuk, RFI.
RFI 10h08 à Beyrouth, la capitale libanaise frappée par l'armée israélienne.
Elle dit avoir visé hier un entrepôt de missiles du Hezbollah. C'est la troisième fois qu'Israël vise le Liban depuis le cessez-le-feu. Israël poursuit aussi ses frappes sur l'enclave palestinienne de Gaza. La défense civile a déploré hier 50 morts. À Jérusalem-Est, 6 écoles gérées par l'UNRWA vont devoir fermer leurs portes d'ici demain ou après-demain. L'UNRWA, en charge des réfugiés palestiniens, a été sommée par Israël de mettre fin à ses activités. Une décision unilatérale, catastrophique pour les populations palestiniennes, notamment dans le camp de réfugiés de Shouafat. Reportage à Blajounaïdi.
Sortie de classe pour Mahmoud, 16 ans. L'adolescent qui se rêve en ingénieur plus tard redoute la fin définitive de l'école gérée par la Wakel, l'agence comme l'appellent les Palestiniens.
Il y a des familles pauvres dans le camp. L'école aide ces gens. Il y a de bons enseignants, de bons élèves. Mes petits frères aussi sont dans cette école. Il ne faut pas qu'elle ferme. C'est l'avenir du camp qui est en jeu.
Cette école au cœur du camp, comme 5 autres à Jérusalem-Est, a été investie au début du mois par les autorités israéliennes qui ont exigé la fin des activités ce 30 avril. Une décision unilatérale qui contrevient aux obligations internationales d'Israël, a dénoncé l'ONU. Jonathan Fowler, porte-parole de l'UNRWA, rappelle qu'il n'y a pas d'alternative à l'agence.
En situation d'occupation, le bien-être de la population doit être assuré. Et il se trouve qu'il y a une agence des Nations Unies qui a été mandatée de fournir des services de base. On parle de ce qu'il faut pour qu'une société fonctionne à peu près. L'éducation, la santé, la voirie. Si on défait l'éducation, est-ce que la santé va suivre? À Jérusalem-Est, nous avons 70 000 personnes qui comptent sur notre réseau de cliniques, de points de santé pour des soins de base.
Le porte-parole ne précise pas quelles mesures l'agence prévoit de prendre le jour de la fermeture. Fermeture annoncée des écoles à Gaza et ailleurs en Cisjordanie, elle a dû opter pour des cours en distanciel.
Un reportage de notre envoyé spécial à Blajounaïdi. Aujourd'hui, la CIJ, la Cour internationale de justice, ouvre une semaine d'audience consacrée à cette décision israélienne d'interdire les activités de l'UNRWA. Au Yémen, une nouvelle frappe américaine fait 68 morts, au moins selon des médias houthis, qui précisent qu'elle a touché un centre de détention de migrants. Hier, l'armée américaine a dit avoir frappé plus de 800 fois les rebelles houthis depuis la mi-mars. Elle affirme avoir tué des centaines de combattants rebelles. Une semaine cruciale pour un accord entre l'Ukraine et la Russie, on l'a évoqué un peu plus tôt, c'est ce que dit l'administration Trump. Sur le front, la situation reste confuse dans la région de Koursk. La Russie affirme avoir repris totalement cette région frontalière. Kiev a dit que les combats s'y poursuivent.
Et pour la première fois, Marion, la Corée du Nord reconnaît avoir déployé des soldats aux côtés des forces russes.
Vladimir Poutine remercie d'ailleurs ce matin le dirigeant coréen Kim Jong-un pour l'exploit de ses combattants. 14 000 soldats de Pyongyang auraient été envoyés à Koursk depuis novembre, Silvio Fioretti.
Après des mois de silence, c'est au travers de ces médias d'État que le régime nord-coréen reconnaît son intervention dans le conflit aux côtés des forces russes. Pyongyang affirme que l'envoi de ses troupes est un exemple de l'amitié stratégique avec Moscou et qualifie de héros ses soldats. Un déploiement coûteux en vie pour le régime qui essuierait déjà près de 4000 pertes. Pour ces hommes tombés au combat, le leader nord-coréen Kim Jong-un promet d'ériger un monument en leur mémoire dans la capitale, Pyongyang, où les familles pourront se recueillir. Cette reconnaissance de la participation nord-coréenne au conflit intervient deux jours après que la Russie a elle aussi confirmé la présence des troupes du régime ermite à Koursk, un moyen pour la Corée du Nord d'officialiser son intervention et de demander une compensation matérielle à Moscou. Invité par Vladimir Poutine, Kim Jong-un pourrait se rendre en Russie dans les prochaines semaines. C'est Sergio Fioretti, Séoul, RFI.
RFI 9h11 à Paris, la fin de deux jours de traque en France.
L'homme qui a tué un fidèle musulman s'est rendu hier soir dans un commissariat en Italie. Il a poignardé à plusieurs reprises Aboubakar Cissé, jeune malien de 22 ans qui était alors dans une mosquée du sud de la France. Le procureur du Gard, Abdelkrim Grini, raconte les circonstances de l'arrestation du meurtrier.
L'auteur présumé s'est bien rendu auprès d'un commissariat italien à Pistoia, exactement près de Florence, hier soir aux alentours de 23h30. Les circonstances, elles sont très simples, c'est que le dispositif et les moyens mis en œuvre ont été tels que celui-ci se savait activement recherché. Manifestement, il a été pris dans un étau et la seule alternative et la seule issue pour lui était de se rendre, ce qu'il a fait. Et j'en suis sincèrement très heureux aujourd'hui. Il s'est rendu seul, effectivement, pour le moment. Il est seul. L'enquête va se poursuivre pour vérifier s'il a pu bénéficier de complicité, notamment pour prendre la fuite, pour quitter la France. Nous savions déjà depuis ce week-end qu'il avait quitté la France et qui s'était rendu en Italie. C'était juste une question de temps pour lui mettre la main dessus. Il s'est rendu, tant mieux, et j'en suis vraiment satisfait.
Et la piste de l'acte islamophobe est privilégiée, mais pas encore confirmée. Toujours en France, l'ouverture d'un procès très médiatique, celui du braquage de Kim Kardashian, star américaine de télé-réalité, 9 ans après les faits. Elle était attaquée en pleine nuit dans son hôtel parisien par ceux que l'on appellera plus tard les papis braqueurs. Plusieurs accusés ont près de 70 ans. 10 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui à Paris. Kim Kardashian devrait venir témoigner le 13 mai. Et toujours dans le volet judiciaire, une vingtaine d'interpellations ce matin en France. Dans le cadre des attaques contre des prisons et des agents pénitentiaires. Des perquisitions sont aussi en cours. Depuis deux semaines, un groupe revendiquant la défense des droits des prisonniers français vise des établissements pénitentiaires en publiant des vidéos, des menaces sur Telegram. En football, Liverpool, champion d'Angleterre pour la 20e fois, les Reds sont assurés de terminer en tête de la saison de Premier League grâce à leur victoire hier soir 5-1 face à Tottenham. Et à domicile, face à leur public, une marée rouge en liesse. Avec ce 20e titre, Eric Mamrut, Liverpool égale le record de Manchester United.
La fête était totale à Anfield Road. Les supporters de Liverpool, une nouvelle fois conquis par la prestation de leur équipe, même pas déstabilisés par la rapide ouverture du score de Tottenham. Car ensuite, la machine rouge s'est mise en marche, enquillant les buts pour aller chercher son 25e succès de la saison. À Liverpool, seulement battu à deux reprises, en 34 journées, qui aura imposé un rythme infernal à ses adversaires. Manchester City, le quadruple champion sortant, a rapidement lâché prise, imité par Arsenal, son actuel dauphin, relégué à 15 longueurs. Et dire que les Reds partait dans l'inconnu en début de saison suite au départ de leur entraîneur emblématique Jürgen Klopp. En 9 ans, le technicien allemand avait offert 8 trophées à Liverpool, dont la Ligue des Champions. Son successeur, le néerlandais Arne Slot, n'avait jusque-là entraîné qu'aux Pays-Bas. Mais rapidement, il a su tirer le meilleur d'un groupe resté inchangé durant l'été. Le meilleur d'un Mohamed Salah, l'Égyptien pharaonique à 32 ans. Il est l'actuel meilleur buteur et meilleur passeur de la Première Ligue. Bien épaulé par les Van Dijk, Konaté et autres McAllister, il permet à Liverpool de décrocher une 20e couronne d'Angleterre, égalant ainsi le record de Manchester United. De quoi combler encore un peu plus ses supporters, privés de célébration en 2020 lors du titre précédent en raison du Covid.
Et un autre club anglais s'apprête à disputer la demi-finale de la Ligue des Champions. Arsenal accueille demain soir le PSG pour le match aller. Vous suivrez ce match en direct et en intégralité sur RFI.
Merci Marion Cazeneuve. Très belle journée à vous. 9h15 à Paris. Tout de suite, on passe à la revue de presse. À la une, Frédéric Couteau, cette photo restera-t-elle dans l'histoire ?
Le cliché a fait le tour du monde en l'espace de quelques minutes samedi et il est encore à la une de nombreux journaux ce lundi. Donald Trump et Volodymyr Zelensky assis seuls dans le fastueux décor de la basilique Saint-Pierre et faisant peut-être avancer le sort de la paix en Ukraine. Instant de grâce momentané ou bien réel début d'influence sur le cours des choses, s'interroge Le Temps à Genève. L'avenir le dira. L'enterrement du pape François s'est posé soudain en lieu de la politique internationale, constate Le Soir à Bruxelles, faute d'instance à même désormais de jouer pleinement leur rôle dans le chaos provoqué par le président américain et ses acolytes, privés des traditionnelles déclarations et communiqués officiels communs pour décoder le cours des événements. On en était réduit ce week-end à comptabiliser les échanges et les poignées de main réalisées sur le sol romain, presque soulagé de constater que, oui, durant l'office religieux, Trump et Macron avaient exécuté le geste de paix prévu par la liturgie catholique. On se contente désormais de très peu, soupire Le Soir. Un geste de paix est bien difficile pourtant de tirer cette conclusion de la rencontre dans la basilique Saint-Pierre entre les présidents américains et ukrainiens.
Quoique les deux hommes se soient dit, pour le Times à Londres, il est essentiel que tout accord de paix sur l'Ukraine préserve la souveraineté ukrainienne plutôt que de la restreindre et punisse l'agression russe plutôt que de la récompenser.
Oui, Trump semble avoir été influencé par cette brève discussion avec le président Zelensky, rapporte le quotidien britannique. Zelensky a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une rencontre hautement symbolique et potentiellement historique. Le test sera de savoir, pointe encore le Times, s'il parviendra à convaincre Donald Trump que toute paix négociée ne fera que reporter au lieu de résoudre le conflit si elle ne parvient pas à réduire les acquis territoriaux russes, notamment l'annexion illégale de la Crimée.
Le problème, c'est qu'on avait l'image, mais pas le son, pointe Libération à Paris.
Ce face-à-face au Vatican, dans l'impressionnante démesure de marbre d'une basilique parachevé par Michel-Ange, réinstalle sans qu'il soit possible d'en mesurer la portée superficielle ou profonde, une atmosphère de secret et de pénombre dans le jeu de poker menteur des tractations interétatiques. Il s'agissait de montrer du dialogue tout en coupant le son. Et attention, prévient Libération, il faut craindre qu'il ne s'agisse ici que d'une bien tardive image pieuse. La scénographie de la franchise et de la réciprocité à l'heure des fourbes et avant que les coups bas et le dépeçage de toutes les valeurs ne reprennent de plus belle, sitôt franchi le portail de l'église. Amen.
Et en effet, un coup pour rien.
Oui, à en croire les dernières déclarations de Trump qui font notamment la une du site du Guardian à Londres, on est loin d'un alignement des positions du président américain et du président ukrainien. Il y a quelques heures, répondant à la question d'un journaliste, Zelensky est-il prêt à abandonner la Crimée ? Le président américain a répondu « Oh oui, je pense que oui ». Et dans le même temps, le président américain a affirmé que le face-à-face au Vatican avait amélioré ses relations avec le président ukrainien. Alors, seul point positif, note La Repubblica à Rome, les déclarations de Trump sur Poutine. « La Russie m'a surpris et déçu », a-t-il dit, « car elle a commencé à bombarder après avoir discuté de la paix ». Commentaire du quotidien italien, peut-être, pour la première fois depuis le début de son nouveau mandat, Trump met Poutine dans les cordes. Trump semble en effet s'être convaincu que l'obstacle à la paix pour l'instant est le chef du Kremlin, à qui il a proposé pourtant un accord très favorable qui comprend apparemment le transfert éventuel de la Crimée. Si Poutine ne l'accepte pas, la faute lui en incombera et à ce moment-là, conclut La Repubblica, la réaction du chef de la Maison-Blanche pourrait devenir imprévisible.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale sur RFI. On en parlait à l'instant dans le journal. C'est donc jour de vote aujourd'hui au Canada. Élections législatives anticipées, marquées évidemment par un contexte et pas n'importe lequel. Les récentes invectives prononcées par Donald Trump, le président américain, désireux notamment de voir le Canada devenir le 51e État américain, sans oublier les droits de douane qu'il a lancés contre à peu près tout le monde et notamment son voisin canadien. Voilà qui devrait en tout cas avoir un impact sur ce vote et servir au camp libéral du Premier ministre Marc Carney au Canada. Il faut dire que les Canadiens ne décolèrent pas, comme l'a constaté Marine de la Moissonnière, notre envoyée spéciale. Reportage.
Bon, ça c'est ma fille et mon mari aux chutes Niagara. Oui, ils sont heureux.
Les chutes du Niagara pour faire oublier Broadway à sa fille. Rachel Doran et sa famille devaient passer leurs vacances aux États-Unis à cause de Donald Trump, changement de destination.
Ben, c'était comme aux dernières minutes, donc on pouvait pas faire grand-chose spécial, mais on a fait un petit tour chez nous. Ça nous a donné l'occasion aussi de faire des choses que peut-être on n'aurait pas fait. On doit montrer la fierté canadienne. Je ne peux pas changer grand-chose, mais je peux choisir où dépenser mon argent.
Plus d'un Canadien sur deux a annulé un séjour aux États-Unis ces dernières semaines, d'après un sondage à Bascus Data. Certains renoncent également à Netflix ou à Amazon. Daniel Martel, greffier de 31 ans.
C'est très pratique car vous êtes livré chez vous. Même les croquettes de mon chien, je les achetais sur Internet et je les recevais chez moi. Maintenant, je vais dans un supermarché canadien. Vous trouvez les mêmes produits en magasin. Il faut juste changer ses habitudes, s'organiser un peu mieux quand on fait ses courses. Une fois que cette histoire de droits de douane sera réglée, j'arrêterai. Mais pour l'instant, je fais de mon mieux pour soutenir les entreprises canadiennes.
Dans les supermarchés canadiens, on fleurit ces derniers temps des feuilles d'érable, des étiquettes rouges et blanches qui indiquent aux clients que les produits vendus sont fabriqués au Canada. Selon un sondage paru dans la presse locale, plus de 70% des Canadiens évitent d'acheter des aliments américains. C'est le cas de David McCann, 72 ans, ancien ouvrier dans l'automobile.
Oui, quand je fais mes courses, je fais attention et j'achète autant que possible des produits canadiens. Et pour les aliments qu'on ne trouve pas ici, comme certains fruits et légumes, en hiver, par exemple, j'achète des produits chiliens, mexicains ou espagnols. Je ne suis pas en colère contre les Américains, mais contre leur gouvernement. Donald Trump se prend pour un roi, mais c'est un clown.
Problème, les produits canadiens sont parfois plus chers et puis ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre ce qui est fabriqué au Canada par une compagnie américaine et ce qui est produit par une entreprise canadienne mais avec des matières premières venues des États-Unis. Des Canadiens ont créé des applications qui permettent d'y voir clair. La guerre avec les États-Unis stimule aussi la créativité des artistes canadiens comme Jim Cuddy. Son dernier titre, nous étions les meilleurs amis du monde. Marine de la Moissonnière, Ottawa, RFI.
La colère de beaucoup de Canadiens que vous entendiez contre le gouvernement de Donald Trump. On en parle ce matin avec notre correspondante à Montréal, Nafi Alibert. Bonjour à vous. Bonsoir peut-être même en ce qui vous concerne, Nafi. Vous nous dites que les Canadiens sont déterminés donc à marquer leurs différences avec leurs voisins américains.
L'ancien Premier ministre Justin Trudeau l'avait d'ailleurs bien exprimé au début de l'année. Il était interviewé sur le réseau américain CNN quand il avait dit cette phrase « Les Canadiens sont incroyablement fiers d'être Canadiens et l'une des façons les plus simples dont on se définit, c'est qu'on n'est pas Américain ». Alors c'est une réponse qu'il avait donnée juste après que Donald Trump ait proposé que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Et avec Donald Trump qui continue de menacer, Donald Trump qui insulte, qui méprise les Canadiens, cette envie de se distinguer n'a fait que grandir et j'ai trouvé assez frappant l'autre jour dans une boutique ici à Montréal d'entendre le vendeur expliquer qu'il n'avait jamais vendu autant d'écussons, de petits drapeaux brodés canadiens que les gens accrochent sur leur sac ou à leur veste pour être sûr qu'on ne les prenne pas pour des Américains quand ils voyagent à l'étranger. Alors oui, c'est quelque chose qui se faisait déjà, mais là la demande a clairement explosé au point qu'il a du mal à en avoir en stock et c'est une tendance qui se répand aussi sur les réseaux sociaux avec des bios Instagram qui affichent CA not US, là aussi pour signaler qu'on est fièrement canadien et pas du tout américain.
Mais alors attention, Nafi, vouloir se distinguer, c'est ce que vous nous dites, ça ne veut pas dire couper les ponts.
Au contraire, même, surtout qu'il y a plus de deux tiers des Canadiens qui vivent à moins de 100 km de la frontière américaine, alors il y en a pas mal des ponts entre les communautés de chaque côté de cette frontière. Et malgré les tensions, il y a plein d'initiatives locales qui sont organisées pour garder le lien. Par exemple, il y a ce TikToker canadien qui avait lancé une invitation aux Américains à venir passer un week-end sur l'île de Vancouver, dans l'ouest du pays, donc, pour soutenir l'économie locale qui est là-bas secouée par les menaces tarifaires. Sa vidéo est devenue virale et ils étaient des centaines et des centaines d'Américains à avoir traversé la frontière pour passer le week-end dernier sur place. Des Américains solidaires avec des Canadiens, donc face à Donald Trump.
Nafi Alibert, correspondante d'RFI au Canada. On va vous retrouver, Nafi, tout au long de la journée pour suivre ce vote au Canada et puis pour les résultats. On y revient aussi sur notre site RFI.fr. À la une, en ce moment même, cet article « Élection au Canada » de points porté par leur opposition à Trump. Les libéraux de Carnet s'avancent en favoris. Rendez-vous sur notre site RFI.fr. Notre question d'environnement ce matin sur RFI, comment le changement climatique affecte-t-il le don du sang? C'est une question cruciale vu l'importance d'avoir des réserves de sang pour les différents actes médicaux. Juliette Pietraszewski, selon des chercheurs, le changement climatique représente effectivement des défis pour l'approvisionnement en sang.
Oui, d'abord parce que les événements climatiques extrêmes peuvent interrompre les collectes, détruire des infrastructures, retarder le transport du sang, sachant qu'il doit être conservé à des températures bien précise. Conséquence de ces dégâts matériels, de potentielles pertes parmi les dons. Les exemples de phénomènes climatiques qui ont bousculé la chaîne du sang sont multiples. En février dernier, en Australie, par exemple, l'approvisionnement de sang a été perturbé par le cyclone tropical Alfred dans la région de Brisbane. Elvina Vienney est chercheuse au sein de l'Australian Red Cross Lifeblood, établissement australien du sang dans le Queensland. Elle a coécrit une étude sur le sujet publiée dans The Lancet.
On a dû annuler 3500 rendez-vous. Effectivement, 22 centres de collecte qui ont été fermés en Queensland et au nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Du coup, les hôpitaux, ils ont commencé à stocker du sang pour être sûr d'en avoir assez pour leurs patients. Des dons ont dû être acheminés en urgence depuis d'autres États qui, eux, n'avaient pas les conséquences du cyclone.
Autre exemple aux États-Unis où l'ouragan Milton a frappé la Floride en octobre 2024. Un phénomène amplifié par le réchauffement climatique et où les évacuations et pannes de courant ont également mis à mal les collectes de sang. L'un des enjeux majeurs est donc d'investir dans des unités mobiles de collecte, d'améliorer les technologies de stockage, mais aussi les réseaux de distribution alternatifs pour permettre un approvisionnement même en situation d'urgence.
Un autre défi, Juliette, que représente le dérèglement climatique sur la chaîne du sang, c'est la multiplication des maladies vectorielles.
Oui, vous savez, ce sont les maladies causées par les virus, parasites, bactéries, transmises par exemple par les moustiques. Le changement climatique semble favoriser la propagation de ces maladies. La dengue, le paludisme, le virus du Nil occidental peuvent être des maladies transmises via la transfusion sanguine. Le risque de transmission par transfusion est très faible, précisent les chercheurs, parce que les personnes infectées et avec des symptômes sont recalés. Mais les personnes sans symptômes et infectées peuvent représenter un risque. Les services de don du sang mettent déjà régulièrement à jour les critères de sélection des donneurs et adaptent leur politique pour atténuer ces risques, avec toujours une surveillance sérologique. Elle permet la détection des infections passées et actuelles. Mais tout l'enjeu à l'avenir face au réchauffement climatique sera de maintenir une réserve stable et sûre de donneurs.
D'autant plus que le dérèglement climatique met aussi à mal la santé des potentiels donneurs.
Oui, lors de vagues de chaleur intense, par exemple, des problèmes de santé se font sentir sur les populations, explique Elvina Vienney au sein de l'Australian Red Cross Lifeblood.
Il peut y avoir des effets sur les gens qui ont des problèmes chroniques, des problèmes d'asthme, des déshydratations aussi, des coups de chaleur ou aggraver aussi des pathologies qui sont chroniques. L'anxiété climatique, on en parle de plus en plus, ça pourrait aussi décourager les dons, effectivement.
Les migrations et les déplacements de population dus aux catastrophes climatiques peuvent aussi créer des déserts de sang, c'est-à-dire des zones à faible approvisionnement. De quoi réduire l'offre de certains groupes sanguins rares, déjà compliqués à obtenir en temps normal, en cause un manque de diversité des donneurs. Il est donc essentiel d'élargir le panel de donneurs, d'améliorer les stratégies de recrutement. Enfin, selon la chercheuse Elvina Vienney, il faudrait également développer des systèmes d'alerte précoce, des systèmes pour faire face aux nouveaux défis créés par le changement climatique.
touristique.
Juliette Pietraszewski pour notre question d'environnement sur RFI. Merci beaucoup à vous. Vous restez dans une minute l'information africaine. Ensuite, ce sera le journal des sports avec Victor Missistrano. On va parler notamment de cyclisme, mais aussi de basket un petit peu, de football aussi. Le reportage Afrique ensuite au Ghana avec l'arrivée de la saison des pluies, l'inquiétude des habitants d'Accra face à de possibles inondations. Restez avec nous.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
La Familia Grande avait été un livre choc en France. Camille Kouchner y révélait l'inceste subi par son frère jumeau dans une famille où le secret avait été bien gardé. Elle sort son premier roman, Immortel, où il est aussi question de gémellité et d'une amitié rare entre une fille et un garçon.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Continuer à informer malgré la guerre. Près de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, les quotidiens régionaux sont soumis à la même pression des bombardements russes que les populations civiles. Les rédactions sont contraintes de déménager, mais elles continuent d'assurer leur publication.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.